vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, vague de chaleur épisode 1. Déjà des températures au-dessus des 30 en cette mi-journée. 33 à Ajaccio, 30 à Paris. À Limoges et Clermont, c'est 29, 28 à Metz et un petit 17 degrés à Saint-Nazaire. Nous ferons un point très complet avec Élodie Callac dans 2 minutes. Où fera-t-il chaud dans les heures à venir et la nuit prochaine? Le facteur humidité. Et que peut-on dire de la durée de cette vague de chaleur en ce début de semaine? Avant cela, nous irons à Grenoble. Le coup de provoque de militants pro-Burkini. Ils se sont imposés hier à la piscine après avoir invité micro et caméra. L'actualité internationale, la conquête de la mairie d'Istanbul par l'opposition marque-t-elle un tournant dans la Turquie d'Erdogan? Quand les déboires conjugaux de Boris Johnson font l'actualité en Grande-Bretagne, il ne manquait plus que cela. À l'approche de l'ouverture à la concurrence, la SNCF ouvre un guichet pour accompagner les agents. Il y a de la souffrance à la SNCF. Un représentant de la CFDT sonne l'alarme. Et puis cette question, les joueuses de l'équipe de France de foot sont en quart de finale du mondial, mais elles n'ont pas levé tous les doutes hier soir face au Brésil. Peuvent-elles battre les États-Unis, probables futurs adversaires? On en parle avec l'invitée du 13h, la consultante foot de Radio France, Nadia Benmokhtar. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Liberté de s'habiller comme on veut, dans un pays tolérant, où vêtements qui symbolisent une image rétrograde et dangereuse de la femme et des relations hommes-femmes, où l'on reparle du burkini. Les militants d'une association sont passés en force hier dans une piscine de Grenoble. Les médias avaient été invités. Malgré l'interdiction, quelques femmes se sont baignées en burkini. Reportage Nicolas Joly.
La mise en scène a tout d'une opération commando. Après un rapide briefing, les membres du collectif entrent dans la piscine, payent leur entrée. Direction les vestiaires où une dizaine de femmes enfilent un burkini au lieu d'un maillot de bain classique. Une fois en tenue, c'est le plongeon. Taous affirme vouloir simplement défendre ses droits.
On revendique nos droits civiques et notre liberté, comme n'importe quelle femme.
C'est le collectif militant Alliance Citoyenne qui pilotait cette action, en prenant soin d'inviter la presse et de communiquer sur les réseaux sociaux. L'objectif, attirer l'attention et faire réagir un maximum de monde. Autour du bassin, certains baigneurs les soutiennent, d'autres s'interrogent.
Certes, il y a la religion, mais elle ne dérange pas, donc elles peuvent se baigner et chacun doit se respecter.
À la fois, il faut que tout le monde puisse se baigner, et en même temps, c'est le problème de la place de la religion dans l'espace public, quoi.
La vraie question, c'est pourquoi elles font ça? J'ai peur que ce soit parce que leur mari leur impose et ça...
Des réactions moins virulentes que celles de Mathieu Chamussy, chef de l'opposition au conseil municipal de Grenoble.
C'est une volonté de fragmenter la société. Il ne faut pas hésiter à leur interdire l'accès aux équipements publics pour que ce genre de provocation ne se reproduise pas. Il est urgent que la ville de Grenoble adopte une position claire et nette.
La ville de Grenoble affirme quant à elle qu'elle applique simplement le règlement intérieur de ses piscines et que les contrevenants ont été verbalisés à hauteur de 35 euros.
Et nous en venons à la canicule, comme promis, le point sur cet épisode de chaleur avec Élodie Callac. Bonjour Élodie.
Bonjour à tous.
Météo France, caractéristique de cet épisode, il est très précoce dans l'année. Pour l'instant, vous le confirmez, hein, l'alerte orange reste cantonnée à Paris et Petite Couronne plus la Seine-et-Marne.
Oui.
Où fera-t-il chaud dans les heures à venir?
Alors la canicule, elle va être étendue cet après-midi hein, vers le sud et l'est du pays. On verra les départements exacts à 16h. Cet après-midi, on respire bien sur le nord-ouest. Attention aux orages quand même en fin de journée. 18 degrés à Dinard, 21 au Havre, 27 à Amiens. Ailleurs, souvent 30 à 34 degrés déjà. 32 à Lille, à Bordeaux, 33 à Paris, Metz, Besançon ou Montauban. Et puis on pourrait aller jusqu'à 35-37 degrés entre le centre, le nord de l'Auvergne et la vallée du Rhône. 35 à Bourges et à Lyon, 36 à Nevers, à Clermont-Ferrand, 37 du côté d'Auxerre ou de Vichy.
Alors Élodie, on sait qu'une des clés en période de canicule, c'est la température qui ne baisse pas la nuit. Où fera-t-il particulièrement chaud la nuit prochaine?
Alors souvent 17 à 20 degrés attendus cette nuit. Alors dans les agglomérations, la température aura encore plus de mal à baisser. Ouais. Pas moins de 20 degrés à Lille, à Bourges, 21 à Lyon, à Marseille, 22 à Paris, 24 à Nice. Et je rappelle qu'au mois de juin, on a les nuits les plus courtes. Donc ça aggrave encore le phénomène.
Que penser de ce qui est un peu une des nouveautés de cette vague hein, en tenant compte de l'humidité, on aurait jeudi, vendredi, des températures ressenties de 47-48. Est-ce que ça a du sens, Élodie Callac, de raisonner comme cela?
Alors, l'humidex, c'est un indice qui combine la température sous abri et l'humidité de l'air. Donc, à température équivalente, plus l'air est humide, plus la chaleur est éprouvante, dangereuse pour l'organisme. Donc en ce sens, effectivement, ça peut être intéressant. Mais attention, ça peut devenir anxiogène. Et puis on entend quand même des erreurs. L'humidex n'est pas une température, il ne s'exprime pas en degrés. Ça, je veux bien insister là-dessus.
Alors en 2003, la vague de chaleur avait duré quasiment 15 jours, ce qui ne sera sans doute pas le cas cette année. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la durée de cette vague? Combien de temps?
Alors a priori, une bonne semaine pour le moment. Le pic est attendu entre jeudi et vendredi avec une masse d'air de plus en plus sèche, donc une chaleur peut-être moins éprouvante, avec des températures qui pourront atteindre ou dépasser les 40 degrés, pas moins de 20 degrés la nuit. Ça devrait durer jusqu'au week-end, commencer à s'arranger dimanche par le nord avec l'arrivée d'air plus frais, enfin moins chaud.
Tout est relatif.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis sur le sud et l'est, ça pourrait durer un petit peu plus longtemps jusqu'au début de semaine prochaine, mais c'est vraiment le début de cette vague de chaleur, donc j'insiste bien, on va affiner les prévisions au fil des jours.
En tout cas, tout est prêt. Merci beaucoup Élodie Cadac pour toutes ces précisions. Tout est prêt dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les transports pour affronter cette vague de chaleur. C'est ce qu'assure la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui appelle tout de même à la prudence. Chacun peut être touché, pas seulement les personnes âgées. Un point sera fait tous les jours de la semaine à 17h au ministère de la Santé. Pour l'instant, il n'est pas prévu de fermer les écoles jeudi et vendredi, mais cela n'est pas exclu. Les climatiseurs et ventilateurs s'arrachent en magasin. Ça n'est pas une vue de l'esprit. Les ventes ont quintuplé par rapport à une période habituelle dans les grands magasins boulangers. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour.
Vous étiez ce matin au centre Beaugrenelle à Paris. Qu'en est-il?
À 10h moins 10 déjà ce matin, une file d'attente devant les portes encore fermées d'une grande enseigne d'électroménager s'était déjà formée.
Il y a une queue terrible, et Darty ouvre dans quelques minutes et nous cherchons tous ou un ventilateur ou un climatiseur.
Alors pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour acheter un climatiseur?
Parce qu'on est un peu bête, on n'anticipe pas.
Et 15 minutes plus tard, le coup près tombe.
Tout est pris, rupture de stock, vive la canicule.
Il y en avait quelques-uns, tout est parti en moins de deux, il n'y a plus rien.
Et c'est un peu deux salles, deux ambiances devant le magasin. D'un côté les déçus, de l'autre les élus.
On a eu le dernier.
C'est un ventilateur flambant neuf, voilà, donc c'est parfait.
Un ventilateur de table, tout ce qui reste.
C'était la foire d'empoigne pour l'avoir celui-ci. Il y avait déjà une queue de 20 personnes et il y avait 10 ventilateurs qui restaient.
Tu fais des ventilateurs, je fais des clims moi.
Un peu plus loin chez Boulanger, même scène, même file d'attente. Le camion de livraison attendu est resté bloqué à Lille. Alors il faut rationner un climatiseur par personne.
Vous avez trouvé votre bonheur, vous?
Ouais, ouais. Ils en ont donné 5. Et moi, j'étais le 5e. Non, c'est la pagaille à l'intérieur. C'est dur, hein. C'est dur, la vie, sans clim.
En deux jours, l'enseigne a vendu 50% de ventilateurs et de climatiseurs en plus que lors de tout le mois de juin de l'année dernière. Elle assure que les stocks seront suffisants, à condition, bien sûr, de vouloir acheter un ventilateur ou un climatiseur.
Non, je venais chercher un anorak, moi. J'ai pas trouvé.
Merci Sébastien Sabiron pour ce reportage. Paris et sa petite couronne, on le disait, sont les seuls en alerte orange pour l'instant, en plus la Seine-et-Marne. La chaleur va gagner le sud et quasiment tout le pays, là aussi Elodie nous le disait. Dès hier à Paris, le niveau orange du plan canicule était déclenché. Alors Philippe Randet, on va pas mettre tous les parigots au frigo, mais tout de même, quelles mesures sont prises?
Et comment combattre, comment vaincre ces fameux îlots de chaleur, ces dizaines de kilomètres de sol bétonné, ces milliers de rues sans arbres, ces immeubles haussmanniens exposés plein sud? Paris en alerte orange, donc avec toute une série de préventions. Il y a évidemment ce fichier Chalex, Chalex pour chaleur extrême, fichier réservé aux seniors et aux personnes seules ou malades. Vous pouvez vous y inscrire en appelant le 39 75. Dès l'inscription, les personnes vulnérables seront contactées régulièrement par téléphone pour un rappel des règles en matière d'hydratation notamment. En cas d'urgence, un médecin bénévole et un travailleur social seront mobilisés. Autre décision, l'ouverture dès aujourd'hui de salles rafraîchies, des salles climatisées, notamment dans les mairies d'arrondissement. Sachez par ailleurs que 18 parcs parisiens sont ouverts cette semaine, 24 heures sur 24, ce qui veut dire toute la nuit. Ajoutez à cela des maraudes avec distribution de gourdes au SDF, une quarantaine de fontaines temporaires raccordées aux bouches à incendie, l'installation de ventilateurs dans les crèches et écoles, des îlots de fraîcheur. Enfin, en ce qui concerne la pollution de l'air, François de Rugy, le ministre de la Transition énergétique, a annoncé un nouveau dispositif à Paris qui permettra un déclenchement beaucoup plus rapide de la circulation alternée face aux pics de pollution. On n'en est pas là.
Et la ministre Agnès Buzyn le reconnaît, même quand tout est organisé, lorsqu'une vague de chaleur touche le pays, il y a toujours un surplus de mortalité. Et c'est exact. Depuis les 15 000 morts de 2003, chaque épisode de canicule a été disséqué, documenté. Et Daniel Messager, l'histoire récente de la canicule montre qu'en effet, une vague de chaleur n'est jamais anodine, très loin de là.
Oui, cette évolution des vagues de chaleur et de la mortalité associée a été établie par Santé publique France à partir de 2004, suite à la canicule de l'année précédente. Alors, 196 vagues de chaleur ont ainsi été identifiées, la plupart d'entre elles entraînant une surmortalité de 10%. 10%, c'est donc une moyenne, mais en 2006, par exemple, on a enregistré, rien que pour cette année, 76 vagues de chaleur et 65 départements touchés, en particulier les Alpes-Maritimes et le Rhône. Et c'est cette année que la majorité des décès a été enregistrée, avec plus de 1000 décès en excès. Cette vague de canicule a aussi été la plus longue depuis 2004, puisqu'elle a duré du 10 au 30 juillet. On est loin, certes, des 15 000 morts de l'année 2003. Les mesures prises ont donc porté leurs fruits. Mais les épisodes de chaleur se répètent. En 2015, la France a connu 3 épisodes caniculaires. En 2016, pour la première fois, il a fallu prolonger le dispositif plan canicule jusqu'au 15 septembre. Et en 2017, la Corse a connu une vague de chaleur plus intense qu'en 2003. Alors l'urgence d'agir se fait plus que jamais sentir, car ces vagues de chaleur pourraient devenir 2 à 3 fois plus nombreuses d'ici le milieu du 21e siècle.
Contre la chaleur, peut-on aller au bureau en short? C'est une des questions et les réponses qui vont avec, que vous trouvez sur franceinter.fr. Des sujets complémentaires à ce dossier canicule. Précisons pour les sportifs que le ministère des Sports regarde les horaires de compétition pour éventuellement les déplacer. Le sport, justement. Il a fallu plus de 2 heures, il a fallu les prolongations, il a fallu éprouver les nerfs et les organismes, mais c'est bon, les Françaises sont en quart de finale de la Coupe du Monde. Victoire 2-1 face au Brésil hier soir, mais que ce fut pénible. On en parle avec la consultante de Radio France et France Inter pour cette Coupe du Monde. Bonjour Nadia Ben Mokhtar.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce match ?
Il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, la joie de la qualification.
C'est vrai, sûr. Positivement.
Voilà, ça a été un match éprouvant. Alors, effectivement, on ne peut pas se satisfaire du jeu, du contenu. On attend beaucoup plus de cette équipe de France, notamment d'un point de vue technique. On a vu énormément de déchets, de stress, de tension en première mi-temps. Mais j'ai quand même envie d'être positive pour deux raisons. La première, c'est que l'équipe de France a quand même gommé ses défauts au fur et à mesure du match. Et finalement, c'est en prolongation que la qualité du jeu a été la plus aboutie. Il y a eu plus d'occasions, plus de tirs dans la prolongation que pendant tout le reste du match. Donc c'est important de voir que cette équipe de France a su quand même se prendre en main et élever son niveau de jeu dans un moment crucial. Et ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est la capacité à se surpasser de cette équipe. On a vu des joueuses tout donner, des joueuses sortir sur crampe, des joueuses qui finalement collectivement sont allées chercher cette victoire. Et ça c'est important parce que ça structure un groupe aussi, des victoires comme ça à l'arraché contre une très bonne équipe brésilienne.
Alors, vous retenez le positif et ça c'est bien, je vais me faire l'avocat du diable. Toujours des difficultés de finition, on a pioché dans les organismes dès les huitièmes de finale et il va peut-être y avoir un enjeu de fatigue, notamment cette semaine de canicule.
Oui, ça c'est sûr. On en a parlé avec Corinne Diacre dans la conférence de presse sur la manière de gérer cette semaine caniculaire. Bon, à ce moment-là de la compétition, on est de toute façon plus sur de la récupération, de la vidéo, de l'analyse, plutôt que sur de l'entraînement pur. Donc je pense que ça va être une semaine très légère finalement en termes d'entraînement pour les joueuses de l'équipe de France. Et puis la finition, évidemment, c'est un problème dont on parle souvent, qui revient souvent. Alors sur la fin de match, on a vu quand même une équipe de France capable de se créer plus d'occasions, mais il va falloir faire mieux, notamment techniquement dans la précision des derniers gestes. Et on a vu aussi une équipe de France un petit peu décousue, notamment en première mi-temps. Ça s'est amélioré au fur et à mesure du match. Mais voilà, bien recentré sur le rôle de chacune, comment je me positionne et qu'est-ce que je fais à la réception du ballon. Il va y avoir quelques ajustements, oui, à faire de la part de Corinne Diacre.
Puisque vous parlez de chacune, les cas individuels, il y a des satisfactions et des déceptions après le match d'hier, Nadia Ben Mokhtar?
Oui, il y a quelques joueuses qui malheureusement ne sont pas à leur niveau habituel. Je pense à Élise Bussaglia qui a fait pas mal de petites erreurs. Je pense, même à Amandine Henry qui est élue joueuse du match.
Et qui marque le but de la victoire.
Elle peut faire beaucoup mieux. Ouais. Mais dans l'utilisation du ballon, dans le jeu, elle peut faire beaucoup mieux. Marion Torrent aussi côté droit qui a eu un peu de mal, notamment athlétiquement. Et à côté de ça, il y a des satisfactions. On a vu Khadidia Toudiani faire un match plein. On a vu Sarah Bouadi très très rassurante dans les buts. Et ça, c'est important pour la suite de la compétition. On a vu des bonnes entrées de Tinet, de Cascarino qui ont apporté autre chose. Donc voilà, C'est comme Corinne Diacre l'a dit, il y a des joueuses qui sont déjà à 90 à 100%, il y en a d'autres qui ne sont qu'à 60% de leur niveau, donc ce qui va être important, c'est que collectivement, l'équipe de France élève son niveau de jeu.
Amandine Henrique a marqué le but de la victoire et c'est Valérie Gauvin qui avait inscrit le premier but. La compétition se déroule à la maison, avantage le soutien des supporters, inconvénient la pression. Dans cet équilibre, elles en sont où les Bleues? Avantage, inconvénient de jouer à la maison?
On a senti pas mal de tension et de pression sur la première mi-temps, même si elles se sont libérées au fur et à mesure du match. Alors non seulement il y a la pression du public, et puis c'était le premier match à élimination directe, donc c'est vrai qu'on l'aborde un petit peu différemment. Donc j'espère, j'imagine, qu'elles vont se libérer au fur et à mesure. Contre les États-Unis, si c'est les États-Unis qui se qualifient, elles ne partiront pas favorites, et finalement c'est peut-être pas plus mal de se dire on a rien à perdre. Donc voilà, mais c'est vrai que il faut la gérer, cette pression d'être à domicile. Là, avec la canicule qui arrive en plus sur Paris, je ne sais pas si c'est une très bonne nouvelle de jouer à Paris, mais bon, ça sera pareil pour les deux équipes, donc il va falloir s'en accommoder.
Ça passe face aux Américaines, une équipe de France de ce niveau ou pas?
De ce niveau-là, non, clairement. Après, elles ont encore quelques jours pour s'améliorer, pour revoir des basiques. Mais les Américaines, finalement, on les a pas encore vues contre un vrai adversaire redoutable. Je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, la capacité à défendre de cette équipe américaine. On les a jamais vues en difficulté. Donc je pense que l'équipe de France a un profil à pouvoir leur poser des problèmes en allant les faire jouer, en allant presser les défenseurs qui sont pas forcément les meilleures joueuses côté États-Unis. Donc difficile, c'est sûr. Impossible, je pense pas.
Voilà, et il faut d'abord que les Américaines battent l'Espagne. Ce sera à 18h tout à l'heure. Entretien avec Nadia Ben Mokhtar, enregistré en fin de matinée.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Est-ce que la perte d'Istanbul représente réellement un tournant dans le règne, entre guillemets, de Recep Tayyip Erdogan en Turquie? Depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 15 ans comme Premier ministre puis président, il n'a perdu quasiment aucune élection. Mais ce week-end, défaite de son candidat à la mairie d'Istanbul. Défaite particulièrement marquante. L'opposition avait gagné une première fois cette élection en mars avec un très faible écart. Erdogan a obtenu un nouveau vote. Résultat, hier, la victoire de l'opposition fut nettement plus large qu'en mars. 13 000 voix d'avance alors, 750 000 ce week-end. Éric Biegala, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter en Turquie. Erdogan et son parti islamo-conservateur gardent le pouvoir quasiment partout ailleurs. Que change au fond cette élection municipale à Istanbul ?
Eh ben, Bruno, c'est quand même véritablement un tournant. Vous l'avez dit, c'est la première vraie défaite électorale d'Erdogan depuis 17 ans. Et c'est une défaite claire et sans appel. Alors, économiquement parlant, d'abord, ça risque de changer quelques petites choses pour le parti présidentiel, l'AKP, qui contrôlait Istanbul depuis 25 ans. Istanbul, c'est de loin la première agglomération du pays, 16 millions d'habitants, autant que les Pays-Bas, par exemple. C'est aussi une véritable manne, un budget de 5 milliards d'euros, quelques 80 000 emplois directs et indirects, notamment dans ces entreprises semi-privées, semi-municipales, que l'AKP avait mise en place et qui gérait le transport routier collectif, les liaisons maritimes entre l'Europe et l'Asie, la ville est à cheval entre les deux continents, mais également un parc immobilier très important. Et puis, il y a l'aspect politique des choses, et là aussi ça va changer. Istanbul, c'est une Turquie en réduction, et sur un scrutin mettant en face deux personnages, le tenant du pouvoir, fidèle d'entre les fidèles d'Erdogan et ancien Premier ministre d'un côté, un quasi inconnu mais adoubé par le parti d'opposition de l'autre, c'est ce dernier qui l'emporte, et haut la main, cela augure mal, très mal, de la prochaine présidentielle pour Recep Tayyip Erdogan. Mais ça, ce ne sera pas normalement avant 2023.
Éric Biegala en direct d'Istanbul pour France Inter. L'homme de la pression maximale sur l'Iran est au Moyen-Orient, Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine en Arabie aujourd'hui, puis aux Émirats Arabes Unis. L'administration Trump promet de nouvelles sanctions contre l'Iran après que Téhéran a abattu un de ses drones en mer d'Oman. Sanctions d'ores et déjà jugées illégales à l'avance par le Kremlin, la diplomatie russe. Jusqu'où tombera la classe politique britannique? C'était impensable la semaine dernière encore, mais Boris Johnson pourrait perdre son statut de favori dans la course à Downing Street. L'ancien maire de Londres, ancien ministre, s'est disputé dans la nuit de jeudi à vendredi avec sa compagne. Altercation violente, les voisins ont appelé la police, la presse s'en est emparée, ses opposants aussi s'en sont emparés pour s'attaquer à lui. Antoine Gignot, il est dans le pétrin, Boris Johnson.
Absolument, oui, c'est du moins ce qu'espèrent ses adversaires. Son principal rival, Jeremy Hunt, l'accuse d'être un lâche. Deux autres ministres lui demandent de s'expliquer, mais Boris Johnson reste pour l'instant muet à 6 reprises. Ce week-end, les militants conservateurs réunis à Birmingham lui ont demandé pourquoi la police était venue de nuit à son domicile. Il n'a pas évoqué l'altercation, et c'est cette façon d'éluder la question que ses opposants mettent en avant, tout en insistant sur le caractère instable de l'ex-maire de Londres. Les tabloïds remontent à ses colères d'enfant, son coup de poing dans un mur après une défaite au ping-pong. L'une de ses anciennes collègues, autrefois journaliste comme lui, publie une tribune dans le Times et parle de changement d'humeur terrifiant. Sa peau rougit, son regard devient noir, sa bouche écume de rage, dit-elle. Impossible de lui confier les codes nucléaires. Conséquence immédiate, les conservateurs écossais, déjà inquiets de voir se profiler un Brexit dur, parlent désormais de l'arrivée possible de Boris Johnson au pouvoir comme d'une catastrophe. L'un des plus grands donateurs du parti s'inquiète de sa moralité, et chez les adhérents, sa cote de popularité est passée de 55 à 45% en 2 jours. Un sondage montre même qu'il a perdu sa place de favori.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter. En France, la SNCF met en place à partir d'aujourd'hui un atelier pour accompagner les agents dans la transformation de l'entreprise. La compagnie ferroviaire en pleine mutation se rapproche toujours un peu plus l'ouverture à la concurrence. Est-ce que tout cela suscite un malaise ou pas à la SNCF? Écoutez Thomas Cavel de la CFDT Cheminots. Il tire la sonnette d'alarme.
Les salariés, ils sont extrêmement malmenés. C'est parfois complètement intolérable parce qu'il y a des suppressions de postes à longueur de temps, parce qu'il y a des conditions managériales qui sont extrêmement dures. On sent effectivement une ligne managériale qui est un peu impuissante pour prendre soin du corps social alors qu'elle est obligée de se transformer très très vite. Chaque citoyen peut voir que quand il va acheter un billet en gare, enfin ça devient absolument infernal. Il y a un temps d'attente très très long. C'est un exemple des choix d'organisation qui sont faits. Et aujourd'hui, les collègues face au public avec de moins en moins de moyens, pour eux, c'est évidemment très compliqué parce qu'ils ne rendent pas le service qui devrait être rendu et ce n'est pas de leur faute. C'est une réalité. Il y a des salariés de la SNCF qui ont mis fin à leur jour et ça, tout le monde ne peut que le déplorer, mais maintenant, il faut agir.
Un propos recueilli par Maxime Debs du service économique de France Inter. Maxime Debs qui nous a rejoint autour de la table pour un autre sujet. Bonjour.
Bonjour.
Carlos Ghosn est loin d'être sorti du tunnel lui aussi. La justice japonaise vient de rejeter un nouveau recours de ses avocats. Il lui est toujours interdit de voir sa femme par exemple. Et par ailleurs, l'administration française entame un examen de la situation fiscale personnelle de l'ancien patron de Renault-Nissan. Contrôle à la loupe et très pointilleux, croit savoir le journal Libération ce matin. Maxime, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Carlos Ghosn ?
Eh bien, ce qui peut poser question déjà, ce sont ces 11 millions d'euros, 11 millions de dépenses pour le moins suspectes que Renault dit avoir identifiées à la suite de l'enquête portant sur RNVB, la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn aurait fait passer, selon son ancien employeur, nombre de ses propres dépenses en notes de frais ces 10 dernières années. Il serait question de voyages personnels à bord de jets privés, de dons à des organismes qui pourraient être passés sous les radars du fisc. Il y a quelques jours, au début du mois, Bruno Le Maire avait promis qu'une plainte serait déposée, que l'État actionnaire de Renault ne manquerait pas de transmettre à la justice tous les éléments mis au jour par l'audit interne commandé en janvier. Tout ça semble aller dans ce sens-là, sachant qu'une autre question demande à être levée, selon Libération, depuis 2012. Carlos Ghosn est résident fiscal aux Pays-Bas. Or, pour ça, le patron déchu devrait théoriquement justifier de sa présence sur le sol néerlandais au moins 6 mois dans l'année. Et sur ce point, Bercy aurait de sérieux doutes.
C'est mon actu chaque lundi dans ce journal de 13h. Aujourd'hui, l'actualité de Jean-Luc Sercio. Il préside une station de la SNSM à Bandol dans le Var, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. On a mesuré à quel point ils prennent des risques lors du drame des Sables d'Olonne il y a quelques jours. Vendredi et samedi prochain commencent les journées nationales de collecte de la SNSM un peu partout en France. La moitié de son budget dépend des dons privés faits par les particuliers et les entreprises. Alors, parole de sauveteur de la SNSM. D'ailleurs, ça ressemble à quoi la journée d'un sauveteur ?
Le quotidien d'un sauveteur en mer, eh bien, c'est d'attendre parce qu'il est souvent d'astreinte. Et puis, lorsqu'il y a l'intervention, c'est l'adrénaline qui monte et c'est le départ en mer pour aller tendre la main au prochain qui appelle au secours.
Les personnes que vous secourez, les plaisanciers en grande partie, ont tendance aussi à oublier les dangers de la mer ?
Ils ont tendance à l'oublier, c'est surtout qu'ils ne le connaissent pas. On a davantage une grosse partie qui ne sont que des consommateurs de la mer. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'ils n'ont pas conscience des dangers de la météo notamment et parfois de l'entretien de leur propre petit navire.
Concrètement, est-ce que vous manquez de moyens aujourd'hui dans les centres de sauveteurs en mer ?
On manque de moyens. Nationalement, on manque de moyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux grands enjeux pour la SNSM. Un enjeu, le premier, c'est la formation. Nous sommes de moins en moins issus de ce qu'on appelait des professions traditionnellement maritimes. Marine nationale, marine marchande, la pêche. Aujourd'hui, on a des gens qui arrivent un peu de tout secteur, de tout horizon, et on va devoir les former. Personne n'est né marin, mais il faut... Et sauveteur, c'est encore particulier, le monde du sauvetage. Le deuxième enjeu, eh bien, c'est pouvoir renouveler la flotte. La flotte est vieillissante. Nous avons aujourd'hui 41 canots tout temps, du même type que celui qui a eu l'accident au sable, qui commencent à être en fin de limite d'âge, qui ont plus de 30 ans, qui ont 30 à 40 ans. Et il faut les changer. Et ça, ça a un coût. C'est un coût de 1,5 million au minimum pour un tel bateau. Donc vous voyez, 40 à changer dans les années qui arrivent. Budgétairement, c'est très difficile pour l'association, bien sûr.
Jean-Luc Sercieux de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer avec Marius Delaunay. La collecte commence donc ce vendredi pour la SNSM. Dès le lendemain, dès samedi, vous pourrez donner dans chacune des stations de la société. Ce sera une grande journée porte ouverte. Et vous pouvez donner en ligne toute l'année sur le site dont l'adresse est sns.org. Un peu de hard rock, mais oui, et de métal. Pour finir ce journal, le troisième festival le plus couru du début de l'été se tenait ces derniers jours, le Hellfest à Clisson. Il a fait le plein ce week-end, 180 000 spectateurs près de Nantes, 3 jours de concerts à guichets fermés. Pour prolonger la magie, si vous le souhaitez, le musée en ligne de la SACEM, les droits d'auteur, consacre en ce moment une exposition sur le phénomène du métal en France. Jacqueline Pétrose, la collection de bagues Tête de Mort et votre blouson à franges Iron Maiden, vous êtes équipée de tout cela et vous avez regardé ce site, vous avez plutôt apprécié.
On aime ou on déteste, mais en presque 50 ans, le métal a généré des milliers de fans. L'exposition remonte aux origines, les années 70. En une dizaine de salles virtuelles, on suit ces groupes qui ont tracé le chemin grâce aux archives inédites de la SACEM. Et Jérôme Guibert, maître de conférence en sociologie à la Sorbonne Nouvelle et commissaire de l'exposition.
L'idée, c'était de faire un peu de la spéléologie sur les archives de la SACEM pour montrer en fait la dynamique de la scène métal française. Et donc le tout agrémenté de textes écrits à la main, déposés dans les années 80, ou de photos d'identité des musiciens des années 70. Il y a un côté pédagogique pour essayer de comprendre comment s'est développé le métal.
Des variations à Gojira, de Trust à AC/DC. Pour les fans, le plaisir ne se dément pas, à tout âge et dans tous les milieux.
C'est une espèce de puissance de la musique qui leur donne un moyen symbolique d'affronter la difficulté de la vie quotidienne, la dureté de notre société. Donc c'est ce que disent les passionnés, évidemment. Les gens qui n'aiment pas continuent à dire que c'est du bruit, c'est une agression sonore. Mais finalement, la musique métal a touché des types de personnes très hétérogènes.
Et pour parfaire ses connaissances, l'exposition propose une playlist de 19 titres.
Voilà, et pour voir cette exposition en ligne, c'est donc www.musee.sacem.fr.